Il y a plein de gens que je reçois en consultation qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes à ce niveau-là. Puis je me suis dit, ben je vais faire un épisode pour aider le maximum de gens possible pour les outiller à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, je te parle de communication bienveillante et de langage non-verbal. Salut, mon nom c'est Stéphanie Frédéric, je suis consultante en entreprise et individuelle. Grosso modo, j'aide les entrepreneurs, les gestionnaires, les leaders, mais aussi les employés dans leurs défis du quotidien. Mon objectif, c'est de vulgariser certains concepts du monde des affaires pour toi. J'espère vraiment que ma chaîne va t'outiller. Bonne écoute! Je vais commencer par vous dire que la communication, c'est vaste. Mais aujourd'hui, je vais vraiment mettre mon focus sur la communication bienveillante et le non-verbal. Mais la communication, ça se limite pas à ces deux aspects-là. Premièrement, c'est important de comprendre que si tu veux améliorer ton style de communication, va falloir que tu fasses des efforts puis va falloir que tu sois déterminé. Parce que c'est pas quelque chose qui va se faire overnight. Si tu te retrouves souvent dans des conflits avec tes pairs, ben c'est probablement parce que tu as un style de communication qui est inefficace, mais qui est vraiment ancré en toi. Ça se peut que ce soit aussi parce que tu es du genre à te laisser submerger par tes émotions, puis tu vis facilement de la colère, de la honte, de la culpabilité, puis ça, ça se reflète dans tes réactions avec tes pairs, puis c'est là que ça crée des conflits. Fait la communication bienveillante, qu'on appelle aussi la communication non-violente, le CNV, ben c'est un outil qui t'aide à améliorer ta communication verbale pour transformer tes conflits en dialogue. C'est une technique qui t'aide à assumer tes actes, à être en paix avec toi-même, puis à améliorer tes relations avec tes pairs. Bref, la communication bienveillante, c'est un outil qui est vraiment aidant pour les personnes qui se laissent facilement submergées par leurs émotions, mais aussi pour les personnes qui occupent un poste de leadership, les dirigeants d'entreprise, des profs, des professionnels de la santé, les gens qui doivent négocier, les parents, les éducateurs, toutes les gens qui sont dans une position d'autorité, un policier, un ambulancier, bref, tous ceux qui doivent faire face à des potentiels conflits et qui veulent les prévenir. Et comme le Charles Rosenberg dirait, tout conflit est l'expression d'un besoin insatisfait. Je suis tellement philosophe, à vous. OK, là, je vais te pitcher une belle théorie qui va t'expliquer c'est quoi la technique. Puis après ça, inquiète-toi pas, je vais te donner du concret pour que tu puisses te situer puis que tu puisses comprendre comment tu peux l'appliquer pour toi dans ton quotidien, dans tes relations interpersonnelles. Parce que la théorie, c'est tout le temps bien intéressant, mais concrètement, on veut savoir comment qu'on l'applique. Fait que je commence avec la théorie, mais reste là. Donc, la technique de la communication bienveillante se base sur quatre principes fondamentaux qu'on peut retrouver dans l'acronyme OSBD. Donc, observation, sentiment, besoin et demande. Grosso modo, cette technique-là te demande d'être à l'écoute de toi-même avant de pouvoir être à l'écoute de l'autre. Puis, c'est pour ça que je te disais qu'il va falloir que tu sois déterminé puis que tu mettes des efforts. Parce qu'aller voir en dedans de toi, là, c'est pas facile. Mais ça va te permettre d'être authentique puis d'être disponible pour accueillir l'autre de façon empathique. Donc, le O pour observation, ça signifie que tu dois baser tes observations sur des faits sans porter de jugement. Donc, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu de façon rationnelle et non subjective? À cette étape-ci, ça se peut que tu aies l'impression de parler au-dessus parce que tu nommes un fait. Mais si tu as pris la bouteille d'eau et tu l'as déplacée, c'est un fait. Tu restes dans le rationnel, non subjectif, c'est ça qui est arrivé. Mais si, par exemple, tu dis « Joanie m'a fait mention que tu as bougé la bouteille d'eau », ben là, t'es plus dans le non subjectif, t'es plus dans des faits parce que tu le sais pas c'est quoi qui est arrivé. Donc, tu me suis-tu, là, jusqu'à maintenant, là? Parce que je l'ai passé au S, là. Le S, ça signifie que tu dois nommer c'est quoi ton sentiment par rapport à la situation, par rapport à ce que tu vis dans la situation. Et c'est là que tu dois nommer les sentiments que ça te fait vivre en parlant au je. Est-ce que la situation te fait vivre de la colère, de la tristesse, de l'impuissance? C'est ça qu'il faut que tu réussisses à nommer. Le B, ça signifie qu'il faut que tu exprimes c'est quoi ton besoin en lien avec la situation pour éliminer ton irritant ou ton émotion négative, si on peut dire. Donc, c'est une étape qui peut paraître extrêmement simple, mais c'est vraiment pas si simple que ça d'identifier ton besoin. Il faut vraiment que tu ailles à l'intérieur de toi et te dire, bon, mais ça l'évoque quoi en moi? Est-ce que tu as besoin d'amour? Est-ce que tu as besoin de reconnaissance? Est-ce que tu as besoin d'estime, de réalisation de toi? Qu'est-ce que tu as besoin? Ça paraît simple, hein? Et cette étape-là, dans les quatre, c'est la plus difficile parce que souvent, on a fuck all l'idée de c'est quoi qu'on a besoin. Donc, faut prendre du temps pour aller voir qu'est-ce qui se passe là, là. Et finalement, D, il faut que tu formules ta demande. Donc, c'est quoi que tu t'attends de l'autre? Il faut que ta demande soit positive, claire. Il faut qu'elle soit concrète, réaliste, naturellement. Mais il faut surtout qu'elle soit sans exigence. Ça veut dire que ça se peut que la personne te dise oui ou non. Et c'est un peu l'objectif. Faut pas que tu t'attendes à un oui ou à un non. Get it? Got it? Got it? Got it? Hein? Bilingual, la fille, hein? Got it, get it, hein? Mais là, on est rendu à l'étape que tu te dis, ouf, c'est tellement beau cette belle théorie-là, ma Steph, ça a l'air tellement simple, mais j'ai fuck all l'idée de comment l'appliquer encore. Fait que, donne-moi du concret et je suis rendue là. Pour appliquer la technique de la communication bienveillante aujourd'hui, je vais utiliser un extrait d'un défi problématique qui m'a été soumis via mon Linktree. Donc, le lien est dans ma description. Grosso modo, si c'est la première fois que tu m'écoutes ou que tu me vois, le défi problématique, c'est un formulaire que les gens peuvent aller remplir sur mes différentes plateformes et en me fournissant des problématiques, que ce soit des problématiques professionnelles, personnelles, et je réponds avec une vidéo en fournissant des outils pour les aider à passer à travers cette problématique-là. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller remplir le lien et c'est à partir de ça aujourd'hui que je vais me baser pour le fameux OSBD. Dans l'extrait d'aujourd'hui, j'ai aucune idée de comment que la personne qui m'a écrit se sent dans la situation. J'ai pas été témoin de quoi que ce soit. Je ne connais pas la personne. C'est soumis de façon anonyme. Donc, c'est vraiment des présomptions que je vais utiliser pour utiliser la communication bienveillante. Alors, voici l'extrait. Ma gérante est très soupolaire. Il n'y a pas moyen de faire des blagues sans qu'elle soit insultée. Elle parle aussi toujours très fort et surtout beaucoup. Lorsqu'on essaie de placer un mot, elle hausse le ton pour qu'on écoute seulement qu'elle. Comment puis-je gérer ce genre de tempérament en étant son assistante gérante? Nous sommes deux assistants et un seul poste de gérant. On part de ça. Donc, on va y aller en étape ici en utilisant la technique OSBD, observation, sentiment, besoin et demande. Donc, observation. Lors de notre conversation de ce matin, j'ai voulu prendre la parole et tu m'as interrompu en haussant le ton. Sentiment. Je me sens ignorée puis frustrée quand ça arrive. Besoin. Parce que j'ai besoin de sentir que je contribue à la conversation pour me sentir acceptée. Demande. J'aimerais que tu me permettes de m'exprimer à mon tour quand on discute. Boum! Je sais pas si tu vois la différence quand on prend le temps de bien formuler, mais vraiment, j'ai pris la responsabilité de mes sentiments face à la situation. Donc, c'est difficile pour la personne de dire « Non, c'est pas vrai que tu sens de même. » C'est impossible. Elle peut pas... S'il y a quelque chose qu'elle peut pas remettre en doute, c'est comment moi je me sens. Parce que c'est... Elle sait pas. La seule personne qui sait comment je me sens, c'est moi. Elle peut pas contre-argumenter contre ça. Une fois que tu as formulé avec bienveillance, ça se peut que la personne avec qui tu échanges vive une tonne d'émotions. Puis ça se peut que tes besoins à toi entrent en conflit avec ses besoins à elle. Mais garde en tête que ses émotions à elle ne t'appartiennent pas au même titre que tes émotions à toi ne lui appartiennent pas. Si tu veux réussir à modifier ton style de communication puis appliquer la communication bienveillante, il faut que tu sois conscient que ça va te demander des efforts, de la volonté, beaucoup de travail. C'est un travail qui s'échelonne sur une bonne période de temps. Ça se fait malheureusement pas overnight. Je l'ai dit plusieurs fois dans mon épisode d'aujourd'hui, mais c'est comme un peu le même principe que si tu veux perdre du poids. Si tu as 50 livres à perdre, ça ne sera pas du jour au lendemain. Il va falloir que tu prennes des actions. Tout le monde aimerait ça avoir une recette miracle pour que ça se fasse en un claquement de doigts, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie pour bien des affaires. Puis la communication, ben ça fait pas exception à la règle. Il faut que tu apportes des modifications comportementales pour améliorer ou du moins changer ton style de communication si pour toi c'est quelque chose qui est problématique. Puis dans le processus, il y a des journées où est-ce que tu vas te dire « Aïe, aïe, je suis tellement un champion de la communication, je m'exprime bien, je suis posée, je prends vraiment le temps d'être empathique avec l'autre, puis vraiment ça sonne comme que je voudrais que ça sorte. » Puis il y a des journées où est-ce que ça va être un shit show, tout va sortir tout croche, puis comme vraiment, tu vas voir que ça va être, il y a rien qui va, c'est correct, ça fait partie du processus. Il y a des bonnes journées, il y a des mauvaises journées, comme dans n'importe quoi. C'est ce qui conclut mon premier volet de l'épisode d'aujourd'hui qui concernait la communication bienveillante. C'est sûr qu'il y a d'autres éléments qui rentrent dans cette communication-là que je ne rentre pas aujourd'hui, mais ça vous donne les grandes lignes. J'espère que ça va vous donner au moins un point de départ pour faire des essais-erreurs pour changer votre style de communication. Mon deuxième volet aujourd'hui, c'est le non-verbal. Parce que je peux pas te parler de communication sans aborder le non-verbal, parce que si ton non-verbal est en contradiction avec ton verbal, ben tu peux pas vraiment rentrer dans une communication qui est réellement bienveillante. Mais c'est quoi la communication non-verbale? Ben ça l'inclut les expressions de ton visage, ton regard, le contact visuel que tu as, tes gestes, ta posture. Je vais faire attention à ma posture. Tes touchés, tes silences, ton habillement, ta coiffure, ton maquillage, ton odeur, la distance interpersonnelle que tu gardes avec les gens. Mais ça peut être aussi dans ton thème de voix, le ton que tu utilises, le volume que tu utilises aussi. Donc, ton débit aussi. Ça fait toute partie du langage non-verbal. Puis si on se fie à la règle des 3 V de Marabian, j'ai de la misère à le prononcer, qui concerne le langage verbal, vocal et visuel, 93% de notre communication passerait par le non-verbal. Donc, c'est pour dire que c'est comme essentiel d'en prendre conscience. Puis le non-verbal, ben c'est vraiment complexe parce qu'il y a une grande partie qui se fait de façon inconsciente, involontaire puis incontrôlée. Puis là tu te dis, ben là c'est inconscient, involontaire puis incontrôlé, je peux rien faire pour changer mon non-verbal. Ben là c'est ça, je vais te fournir quelques outils aujourd'hui pour t'aider à t'accompagner dans certaines affaires que tu peux contrôler de façon consciente. Un des aspects que tu peux apprendre à contrôler dans le non-verbal, c'est le paralangage. Puis là, pas tout du paralangage, mais certains éléments. Le paralangage, c'est quoi? C'est ton timbre de voix, ton débit, ton volume, puis le ton que tu utilises. Au niveau du timbre de voix, ben on s'entend que ça fait partie des choses que tu peux pas contrôler. T'es né avec ça. Puis c'est ça qui fait que tu es une personne qui est unique. Tu peux pas imiter, je peux pas imiter la voix de John Travolta si ça me tente là, c'est physiquement impossible pour tous les humains de la Terre. Donc il y a pas de miracle que tu peux faire à ce niveau-là. It is what it is. Ton débit, ça par exemple, c'est quelque chose que tu peux améliorer et contrôler à un certain niveau. Toujours. Mais ça, tu peux faire de quoi? Si t'as tendance à parler super vite quand t'es stressé parce que tu perds le contrôle, ben il y a des exercices de respiration que tu peux faire pour t'aider à apprendre à respirer. Il y a une tonne d'applications, que tu sois iPhone, Android, sur ton ordinateur, peu importe ce que tu veux faire, il y a une tonne d'applications de cohérence cardiaque qui te permet de pratiquer ta respiration. Et si tu le fais d'une façon sur une base quotidienne, en fait, ça va non seulement t'aider à gérer ton débit, mais c'est un outil extraordinaire pour gérer ton stress. Donc, après un certain moment, ça devient même un automatisme de bien respirer. Donc, si tu es stressé facilement, cohérence cardiaque. Un autre truc pour contrôler ton débit, c'est de faire de la lecture à voix haute. Puis là, je sais que ça sonne vraiment bizarre, mais ça te permet d'apprendre à parler sans être essoufflé et à faire des pauses au bon moment à cause de la ponctuation. Donc, ça te permet de bien gérer tes temps. Une autre chose que tu peux contrôler dans le paralangage, ben c'est le volume que tu utilises quand tu parles à quelqu'un ou à plusieurs personnes. On s'entend, si tu parles à deux personnes dans une bibliothèque, tu ne vas pas parler avec le même volume que si tu t'adresses à 500 personnes dans un auditorium. Puis ce qui est intéressant avec le volume, c'est que tu peux l'utiliser pour faire des intonations pour aller capter l'attention de ton auditoire. Souvent, on pense que pour aller chercher l'attention des gens avec qui on parle, on doit parler très fort! Mais en réalité, si on fait une variation dans notre volume, les gens vont avoir tendance à nous écouter plus si on change un peu le ton de voix et qu'on augmente progressivement et on amène une variation. Donc, ça vient remettre le focus sur la personne, sur ce qu'elle dit et tu viens vraiment avoir une conversation beaucoup plus efficace. Un autre aspect du non-verbal que tu peux contrôler, c'est ton apparence physique. Puis là, je te parle pas d'aller te faire refaire les lèvres, les seins puis les fesses, là. Non, je te parle de comment tu t'habilles, comment tu te peignes, comment tu te maquilles. Ça, tu le contrôles. Puis là, quand je te parle de contrôle, je te parle du contrôle que tu peux faire consciemment. Parce qu'il y a quand même un pourcentage qui reste inconscient. On est des humains. Puis la science humaine est très imparfaite, mesdames et messieurs. Fait que là, à ce niveau-là, au niveau de l'apparence physique, c'est important de distinguer trois types d'images. T'as l'image projetée, qui est l'image que t'as de toi-même. T'as l'image qui est souhaitée, qui est l'image que t'aimerais que les gens aient de toi. Et t'as l'image reçue, qui est celle perçue par les gens. Donc ça, c'est trois choses différentes. Puis comment je me vois peut être très différent de comment les gens me perçoivent. Donc la façon que tu t'habilles, que tu te maquilles, que tu te peignes, ben ça révèle des parties de toi que tu le veuilles ou pas. Ça peut révéler ton âge, ton milieu social, ta situation professionnelle, ton orientation sexuelle, tes goûts personnels, ta religion, ta culture. Ça peut aussi révéler tes émotions, tes sentiments, envoyer un message sexuel ou même ton statut social. La raison pour laquelle j'ai choisi de te parler de l'apparence physique aujourd'hui dans le non-verbal, c'est parce que ça peut avoir une influence dans tes relations personnelles et professionnelles. Parce que inconsciemment, notre cerveau analyse notre interlocuteur sur son apparence globale. C'est inconscient, mais ça se passe. Puis là, oui, je le sais, j'entends le fond de ta pensée, puis tu te dis, ben oui, mais je vaux pas mal plus que mon apparence physique. Je suis d'accord avec toi, mais c'est malheureusement pas tout le monde qui va se donner la peine d'aller voir au-delà de la première impression. Puis ça, des fois, ça peut faire la différence entre est-ce que c'est toi le candidat qui est retenu pour la promotion ou ce n'est pas toi, c'est l'autre à côté. Donc, je sais, ouch! Ça fait mal. Il n'y a personne qui va te dire « Hey, t'as pas été pris parce que ton complet était tout fripé. » Mais c'est ça qui se passe. Puis c'est sûrement pour ça que t'as déjà entendu parler de l'importance du personal brand en affaires. Donc, l'image personnelle, si c'est quelque chose qui t'intéresse, que t'aimerais que j'aborde un peu plus en profondeur, je t'en parlerai dans un autre épisode parce que c'est quand même un aspect important dans le monde des affaires, le personal brand, et ça n'inclut pas juste ton apparence physique. Dans l'apparence physique, mon conseil, c'est de rester le plus authentique possible et de mettre des vêtements dans lesquels tu te sens bien. Parce que quand on porte un vêtement dans lequel on se sent beau, on se sent belle, ben automatiquement, on va se sentir beaucoup plus confiant, puis ça va se refléter sur nos interactions avec les autres. Mais l'inverse est aussi vrai. Si on porte un vêtement dans lequel, par exemple, on se sent serré, on se sent gros, on se sent grosse, on se sent pas nécessairement beau, ça c'est pas quelque chose qui nous flatte, ben on va pas se sentir confiant et ça va se refléter dans nos interactions avec les autres. Dans le monde des affaires, une chose qui revient régulièrement dans mes conversations quand je parle du non-verbal et de l'apparence physique, c'est « je me sens pas moi-même quand je porte un complet ». Ça se peut, mais ça se peut aussi que tu sois limité parce que toi, tu te définis comme une personne créative, puis une personne créative va pas nécessairement porter de complet. Mais c'est pas parce que tu es un créatif que tu n'es pas un bon homme d'affaires accompli. Même chose si t'es une femme, homme, femme d'affaires accompli, tu peux être les deux. C'est pas un ou l'autre. Puis là, vu que j'ai été philosophe au début de mon épisode, je me suis dit, je continue dans cette direction, puis je vais vous nommer un bon philosophe, Aristote, en vous disant que le tout est plus que la somme des parties. Boom! Drop the mic! Mais bon. Après ces deux aspects-là du non-verbal, le paralangage et l'apparence physique, c'est sûr qu'il y a les gestes, la posture, le regard, les touchés, l'odeur, la distance interpersonnelle, les silences que tu peux aller travailler. Mais il y a beaucoup d'imprécisions dans l'analyse de ces aspects-là, puis c'est vraiment situationnel. Donc, c'est une profondeur que j'étais pas à l'aise nécessairement d'aller avec toi aujourd'hui dans ce podcast-ci, simplement que je voudrais pas te donner de l'information qui t'amène à interpréter une réaction d'une personne quand que la situation est pas propice à cette interprétation-là. Donc, j'ai décidé que j'allais pas plus loin parce que je ne suis pas une spécialiste en non-verbal et naturellement, il faut être très, très qualifié pour aller dans cette direction-là. Je termine l'épisode aujourd'hui en te remerciant sincèrement d'avoir été au rendez-vous. Tout ça, ce serait pas possible pour moi de te fournir des outils si tu ne participais pas, si tu n'étais pas présent. Donc, merci tellement. Pour ceux qui m'ont écrit, qui aimeraient que je parle de la thématique lâcher prise, je vais aborder ce sujet-là dans un prochain épisode. Si c'est la première fois que tu tombais sur mon contenu, mon nom c'est Stéphanie Frédéric. Je suis consultante en entreprise et individuelle. Et la meilleure façon de m'encourager, c'est un like, un partage et un abonnement sur ma chaîne. Mais je t'invite grandement à commenter les sujets que tu aimerais que j'aborde pour d'autres épisodes. Et sinon, je vous dis à la prochaine fois!